Ljubljen is. On est heureux en présence du Seigneur. Allons prier. Bien-aimé Père Céleste, sommes ce soir rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ayant dans le cœur la vive espérance de t'avoir au milieu de nous, parmi nous. Ô Dieu, pendant que tu nous consoles, pendant que tu nous parles, pendant que tu nous guéris, tu nous instruis, tu nous réprimandes, pendant que tu ajustes notre marche de manière à ce que la direction aille tout droit vers cet endroit promis que tu nous as dont tu nous as parlé. Nous t'en remercions ce soir. Te remercions pour cette sollicitude que tu as auprès de nous, pour ta bienveillance. Et parle-nous ce soir, Seigneur, nous attendons à toi. Au milieu de nos tribulations, au milieu de nos problèmes, de nos soucis, nous voulons entendre cette voix apaisante, cette voix rassurante, et que ta grâce soit sur nous, parce que nous n'avons pas de témérité pour dire que nous n'avons pas péché, nous sommes des pécheurs. Si nous avons besoin de ta grâce pour continuer la marche, nous avons besoin de cette grâce bienveillante. Que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, qu'elle surabonde cette grâce et qu'ainsi, ô Seigneur, tu sois honoré parmi nous. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ et nous t'acclamerons avec des mains pures et avec des lèvres pures, avec tes cœurs purs. Car le sang purifie tout de tout péché. Nous sois béni, sois loué, et tout est sanctifié par le sang. Nous te prions de bien vouloir écouter notre prière et de l'exaucer au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons ce soir nous adresser à ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas exhaustif, mais bon, il y a quand même l'une ou l'autre chose que nous verrons qu'il y a pour eux, ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, ces choses. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. S'asseoir. Dieu veut que nous connaissions des choses qu'il a préparées pour nous. Il ne veut pas que nous marchions dans l'ignorance. Nous ne voulons pas marcher dans l'ignorance, ne prenant pas possession de ce qui est à nous. Ce que Dieu nous a donné, Dieu n'en a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin. Et ce dont il nous donne, ce sont des choses dont nous avons réellement besoin. Il ne donne pas ça à tout le monde. Il n'a pas préparé ces choses pour tout le monde. Il les a préparées pour ceux qui l'aiment. Si vous l'aimez, vous êtes un de ceux-là. Donc, c'est à vous. Et qui est celui qui aime Dieu? Jean nous dit dans Jean 14, c'est Jésus qui parle. Jean 14, verset 21. Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Amen. Celui qui a ses commandements. Et ces commandements nous sont donnés où? Dans l'Ancien Testament. Celui qui a ses commandements et qui les garde. Il ne suffit pas de les avoir. Il ne suffit pas de répéter « Tu ne voleras pas, tu ne mangeras pas, tu ne commettras pas ci, tu ne commettras pas ça. » Mais il s'agit de les garder, de les mettre en pratique. Et celui qui fait cela, il le fait parce qu'il aime Dieu. Quand bien même il peut être sollicité extérieurement par le monde, peut être attiré par le monde, par les soucis du monde, non, il ne fait pas certaines choses tout simplement parce qu'il aime Dieu. Père nous a parlé mercredi de Joseph qui a été sollicité par l'épouse de Potiphar. Il n'a pas voulu parce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas, n'est-ce pas? Il a fui. Il ne voulait pas trahir Dieu. Il ne le voulait pas parce qu'il aimait Dieu. Donc c'est celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Et celui qui m'aime, évidemment, à son tour, est aimé de mon Père. Il est aimé de Jésus-Christ. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, si Dieu m'aime, si je l'aime, il m'aime et il me fera connaître à lui. Et nous savons que le connaître, c'est ça, la vie éternelle. Amen. Donc, on va juste intituler « Ceux qui l'aiment ». Comme je dis, ce n'est pas exhaustif. On ne dira peut-être pas tout. Il y a des choses qui vont m'échapper certainement parce que je crois que Dieu a mis beaucoup, énormément de choses pour ceux qui l'aiment. Je ne vois pas vraiment pourquoi on n'aimerait pas Dieu. Beaucoup, lorsque les malheurs leur arrivent, ils en veulent à Dieu. Dieu n'est pas la cause de nos malheurs. C'est que nous oublions parfois quand ça tourne mal, quand ça tourne carré, comme disent les Flamands, au lieu de tourner rond, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute du péché. Et parfois, on en veut à Dieu, alors qu'on vit loin de Dieu depuis longtemps ou depuis toujours. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, ou bien que vous ne connaissiez pas, quelque chose arrive chez vous, votre voisin, vous ne le connaissez pas plus que ça, quelque chose vous arrive dans votre maison, vous en voulez au voisin alors qu'il n'y est pour rien. Vous lui en voulez de ne vous avoir pas aidé. Si vous étiez en complice avec votre voisin, c'est normal que si quelque chose, vous aviez besoin d'aide et que votre voisin ne vous a pas aidé, à ce moment-là, ça va vous étonner. Tiens, pourquoi est-ce que le voisin ne m'a pas aidé? Et c'est la même chose avec Dieu. Si vous n'avez pas cette complicité avec lui, vous pouvez toujours vous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'aide pas? Mais vous l'avez complètement mis de côté. Et l'ayant mis de côté, vous voulez en plus qu'il vous aide. Vous venez, vous faites une prière à la va-vite le soir, vous dites j'ai prié. Non, c'est une véritable conversation. J'ai un voisin, quand on se voit, on se taquine un peu. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je lui dis, tu travailles beaucoup? Il dit, oui, mais bon. Vous savez, quand j'ai mes problèmes à la maison, ce voisin-là, il est deux, trois maisons plus loin. Ce voisin-là, il n'en sait rien. Donc, je ne peux pas lui en vouloir. Ça va? Et pourtant, c'est quelqu'un, on voit bien qu'il s'y connaît dans le bricolage, dans les travaux de maison, il s'y connaît. Mais bon, parfois, je peux avoir mes problèmes dans la maison, mais je ne vais pas lui en vouloir parce qu'il ne vient pas m'aider. Je ne suis pas très complice avec lui. C'est juste comment ça va. On se connaît par les prénoms. Il me dit ça va et puis ça s'arrête là. On blague un petit peu et puis ça s'arrête là. Ici, avec Dieu, ce n'est pas ça. Il s'agit d'un père pour nous. Et il est notre père pour autant que nous soyons nés de lui. Hein? Si nous ne sommes pas nés de lui, c'est sûr. Rien à faire, faut pas vouloir, faut pas lui en vouloir. Nous sommes dans un monde où les règles sont ainsi. Dès qu'on est, nous savons que dès la naissance, le compte à rebours a déjà commencé. Ça, c'est valable pour tout le monde. Nous avons tous un certain nombre de jours à passer sur la terre. Certains un peu plus, d'autres un peu moins, mais bon, ce sont les règles du monde. Non, nous qui connaissons Dieu, qui savons qu'il a la vie et il a les clés de la mort et du séjour des morts, ben, nous prions que Dieu donne longue vie à tous ceux que nous aimons, à tous ceux qui nous entourent et à nous tous, ou bien même quand on souhaite un bon anniversaire à quelqu'un. Vous voyez, le souhait, c'est souvent que Dieu t'accorde une bonne vie, une longue vie. Maintenant, cette longue vie n'est bien que si elle se passe en bonne santé. Hein, parce que si à un moment donné, la vie elle-même devient un fardeau, il y a des gens qui se disent, ben, pourquoi est-ce que je suis encore maintenu en vie? Mais ce n'est toujours pas la faute de Dieu. C'est le péché qui nous a amené tout ça. Quand Abraham dit, quand vous entendez une ambulance passer, sachez ceci, il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Sans ça, il n'y aurait pas d'ambulance. Dans 1 Jean 4, autre. Premier épître. Maintenant, vous qui l'aimez, on l'a déjà vu, on l'a déjà dit, vous l'aimez pourquoi? Eh bien, quand vous aimez Dieu, vous l'aimez dans vos versets 19, Jean dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, en fait, vous n'avez aucun mérite à aimer Dieu. Je dois arrêter ce truc avant. Il ne sonne. Bon, cela ne vient pas de vous. Vous l'aimez parce que lui vous a aimé d'abord. Parce qu'il vous a aimé d'abord, ça il le dit. En ce qui concerne Ésaü et Jacob, il dit avant qu'ils ne naissent, j'ai aimé l'un, j'ai haï l'autre. Parce que Dieu, avant la fin, avant même le commencement, il connaissait la fin. Il savait comment Jacob allait se comporter envers les choses que Dieu lui avait données. Et aimer Dieu, il ne faut pas, comme Satan essaye parfois de nous pousser à cela, il ne faut pas avoir honte de l'aimer. Aimez-le. Amen. Quand vous êtes au milieu de gens qui ne l'aiment pas, dites-leur que vous, vous l'aimez. Qu'ils rient. Ils peuvent rire. Mais vous l'aimez. Et vous avez des avantages que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas. Mais vous, vous savez ce à quoi vous pouvez vous accrocher. Vous savez ce à quoi vous avez part, ce à quoi vous attendre. Un des premiers avantages que j'ai noté dans le fait pour ceux qui aiment Dieu, le premier avantage qu'ils ont, c'est que Dieu leur fait miséricorde. Ceux qui aiment Dieu. Exode chapitre 20. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, devant les idoles, là, les faux dieux, les images taillées. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Amen. Et qui garde mes commandements. Néhémie dit la même chose dans Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er, versets 4 et 5. Lorsque j'entendis ces choses, rapport sur Jérusalem, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Nous remarquons ici, il a prié plusieurs jours. Parce que parfois, on a tendance à penser que ceux de l'Ancien Testament faisait une prière, une bonne prière, et puis 10 minutes après, Dieu les exaucait. Ça prenait du temps. Il faut de la patience. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, il garde son alliance. Ça veut dire Dieu est loyal. Ce qu'il dit qu'il va faire, là, en tout cas, il va le faire. Même si vous êtes infidèle à l'alliance, lui, il reste fidèle. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Quel avantage que Dieu nous fasse miséricorde? Vous savez, plus on passe dans l'âge, plus on se rend compte de la difficulté de la vie dans laquelle nous sommes. Et il arrive toujours un moment où, même si on a connu du bonheur, de très bons moments en famille, mais il arrive un moment où certaines choses commencent à décliner, commencent à sombrer un peu dans une situation misérable. On est dans une certaine misère, happé de tous côtés par toutes sortes de chocs dans la vie, un peu comme ce frère dans Luc 10, n'est-ce pas? Il vivait bien, il était bien. C'était peut-être pas la première fois qu'il se rendait à Jérusalem. Mais ce jour-là, il y est allé. Il n'était pas le seul à aller à Jérusalem. puisque des sacrificateurs, des Lévites sont passés par là. Luc 10, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, puisqu'on lui a posé la question, « Qui est mon prochain ?» Ton prochain, ce n'est pas nécessairement celui qui vit bien à côté. Il peut aussi être quelqu'un qui est dans une situation difficile. Quand il dit, tu aimeras ton prochain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il venait d'un endroit en hauteur pour aller vers un endroit plus bas, dans la vallée. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort et dans une situation difficile. Comme on l'a dit, à demi-mort, on l'a déjà dit, Abraham dit c'est mort spirituellement, vivant charnellement. Un sacrificateur qui fortuitement, par hasard, fortuitement descendait par le même chemin. Hein, c'est à se poser des questions. Pourquoi quand moi je passe par ce chemin, c'est moi qui rencontre des brigands? Mais le sacrificateur, lui, n'en rencontre pas. On a un peu ce sentiment d'injustice parfois. Je n'ai fait que faire telle chose, alors que tout le monde fait ça. Mais non, tu n'es pas tout le monde. Toi qui aimes Dieu, tu n'es pas tout le monde. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Son vin, il avait peut-être mis de côté pour le boire. Mais il n'a pas regardé à ça. En huile, il en avait certainement besoin pour l'un ou l'autre usage. Puis il le mit sur sa propre monture. Et lui, il va continuer le chemin à pied. Là, il faut le faire. Le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Réponse, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il ne l'a pas laissé dans sa situation lamentable. Mais il est venu à son secours. C'est ça exercer la miséricorde. Gratuitement et même en y mettant du sien. Et nous connaissons un bon samaritain avec grand S. Il est devenu samaritain à cause de nos péchés parce que les samaritains étaient connus pour leurs péchés. Il a pris sur lui nos péchés. Et gratuitement, il nous a donné tout ce qu'il avait. Il s'est privé de tout. Celui-ci s'est privé de son cheval. Il s'est privé de son huile. Il s'est privé de tout ce qu'il avait, de son vin. Et non seulement cela, il met encore sa main dans la poche. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Faire de même, ça équivaut à aimer son prochain. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », quand je sais que mon prochain m'aime, et puis je le vois une fois en difficulté, je l'aiderai. Quand Dieu sait que vous l'aimez, il vous aidera. À chaque fois que vous serez dans le besoin. Ah, exercer la miséricorde. Et Dieu dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et nous voyons qu'il a fait miséricorde à Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob l'aimait. Quand quelqu'un vous aime, il vous fait un cadeau. Vous savez que cette personne vous aime. Il vous aime pour ce que vous êtes. Pas avec des arrière-pensées dans la tête. Mais il vous aime, il vous fait un cadeau. Vous allez vouloir garder ce cadeau-là, la manière la plus précieuse possible. Vous allez lui trouver une cachette pour mettre ça bien à l'abri des gens. C'est quelqu'un qui vous aime. Ceux qui ont gardé un souvenir de leur papa ou de leur maman, qui n'y sont plus, ils gardent ces choses-là avec jalousie. C'est papa qui m'a donné. Je tiens ça de ma maman. Je tiens ça de mon frère. Je tiens ça de telle personne. Cette personne m'aimait beaucoup. Et nous avons tendance à tenir cela. Ceux qui aiment Dieu, ils aiment aussi sa parole. Comme dit David dans le psaume 119. Quel autre avantage vous tirez en aimant Dieu? Ne dites pas maintenant, à partir de maintenant, je vais aimer Dieu pour avoir les avantages. Mais vous allez l'aimer si lui vous aime. Comment savez-vous que Dieu vous aime? Vous savez que Dieu vous aime parce que vous l'aimez. Pas parce que vous avez gagné au loto. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un veut gagner au loto, il n'aime pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Mais vous, vous l'aimez. Mais quand vous l'aimez, la Bible nous dit, Jean nous dit, c'est parce que lui nous a aimés le premier. C'est pour ça que nous l'aimons. Il est aussi votre gardien. C'est votre avantage. Il vous garde. Pour un enfant, son gardien, c'est son papa, c'est sa maman, c'est quelqu'un de plus âgé, il vous le garde, mais ni papa ni maman ne peuvent vous garder 24 heures sur 24. Pas possible. Vous aimeriez bien garder les personnes que vous aimez, les garder 24 heures sur 24. Vous aimeriez bien rester chaque fois à côté d'eux. Veillez à ce qu'il ne leur arrive rien. Mais Dieu, lui, il vous garde en tout temps. Il y a quelques années, il y a longtemps de ça, il y avait un frère pentecôtiste. sa femme lui travaillait de nuit et sa femme travaillait le jour, c'est ça. Alors, ils avaient un enfant assez turbulent. Et ils habitaient les immeubles, les grands immeubles là-bas, près de la gare du Nord, les buildings. Ils étaient, je ne sais plus, au 12, 13e étage, quelque chose comme ça. Et cet enfant, il fallait toujours bien le surveiller. Un jour, il est revenu du travail, il était fatigué, et sa femme est partie travailler. Alors, pour être sûr que l'enfant n'allait pas sortir sur le balcon, il a placé un obstacle devant la porte. Et plus que c'était, c'était quelque chose de plus ou moins lourd, selon lui. Et puis, il gardait l'enfant, comme ça arrive souvent à ceux qui travaillent la nuit, il s'est mis à somnoler. Il s'est même endormi. Et l'enfant a eu plus de force que prévu, a pu déplacer l'obstacle, est parti sur le balcon et il a sauté. Il était sous le choc. On est parti. C'était lui qui gardait l'enfant. Donc, pour dire que même nos pères, même nous-mêmes, nous avons quelqu'un que nous devons garder, il peut y avoir une défaillance. Mais quand on vous dit que le Dieu Tout-Puissant est celui qui vous garde, c'est rassurant. Vous savez, Dieu est plus puissant que l'obstacle qui avait été mis devant la porte. Avoir remis cet enfant entre les mains de Dieu, Dieu l'aurait gardé certainement. Faut pas avoir confiance aux choses du monde, aux protections mondaines. Mais en Dieu, oui. Dieu est notre gardien. Psaume 145. Verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Amen. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il n'est pas loin. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Amen. Et il détruit tous les méchants. Si vous l'aimez, il vous garde. Et le garder, ça veut dire quoi? Psaume 121. Pour garder, un psaume m'arrive de chanter de temps en temps. Frère Jean Lambert m'a montré comment chanter ce psaume. Je crois même que ça se trouve dans les ailes de la foi. Il ne permettra, verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Dans les ailes de la foi, il est chanté, je crois, je lève les yeux vers les montagnes. C'est ça. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il est celui qui te garde. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, là où tu as de la force. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. C'est important. Je peux garder quelqu'un, mais garder son âme, c'est autre chose. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. À propos de l'âme, bien sûr, les questions viennent toujours. Je vous dis, les cercles que le frère a formés, c'était une illustration. Il n'y a pas de cercle au-dedans de nous. Nous-mêmes, nous ne sommes pas de cercle. Ce sont des illustrations. Et il peut arriver parfois dans la Bible, quand on dit que l'esprit, un des sens de l'esprit sont les sentiments. Vous pouvez voir dans la Bible, parfois on dit « mon âme est attristée ». Ça va ? Peut-être qu'il y a un sentiment. C'est parce que l'âme et l'esprit sont quasiment inséparables. Ils sont tout le temps ensemble. Il y a une chose qui peut les séparer, qui a la puissance de les séparer, c'est la parole de Dieu. Sinon, c'est difficile de les séparer. C'est impossible de les séparer. Dans Hébreux 4, c'est pour cela que parfois, au lieu de dire « mon esprit », on dit « mon âme ». Ça s'interchange. Mais ce que le frère a donné, c'est tout à fait vrai. C'est juste. Amen. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Oui, ce n'est pas facile, mais la parole de Dieu peut le faire. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui. Ou alors, il peut arriver que l'esprit vous quitte. Ça, c'est au dernier moment. À la mort, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est ce qui arrive lorsque Jésus meurt, n'est-ce pas? Il dit ceci dans Matthieu 27 ou dans Luc 23. Dans Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. L'esprit, on le rend. L'esprit, c'est le souffle. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu souffle dans les narines d'Adam, il est devenu une âme vivante. Ça va? Donc, quand l'esprit, il retourne à Dieu. Tandis que l'âme, Apocalypse nous dit, il y a des âmes sous l'autel, n'est-ce pas? Ils crient jusqu'à quand? C'est votre homme intérieur ou votre personne intérieure. Job nous dit, dans Job 32, verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous avons vu dans Luc 9, n'est-ce pas, où Jésus réprimande Jacques et Jean, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et Dieu lui-même est le gardien de nos âmes, pour que l'âme ne pêche pas. Dites amen à ça. Il n'est pas dit de l'esprit. L'esprit qui pêche, non. Il est dit de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, pour que l'âme ne pêche pas, votre pasteur ne sait pas, il ne peut pas, il n'a pas la capacité de garder vos âmes. Ça va? Il va vous apporter la parole. Votre frère, votre mari, votre femme, votre papa, votre maman, votre sœur, que sais-je, ils ne peuvent pas garder vos âmes. Mais Dieu, oui. Tant que nous sommes ici ensemble, ça va. On peut se surveiller. Ça va? Mais quand on va se séparer, vous ne savez pas ce que je vais faire à la maison. Pour autant que je rentre à la maison. Quand je quitte ici, si je suis seul, ben je pars. Vous pensez peut-être que Frère François est rentré à la maison. Peut-être qu'il n'est pas rentré à la maison. Où est-il allé? Peut-être il est peut-être parti dans un endroit qu'il ne fallait pas qu'il parte. Oui, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Puis quand on va commencer à vous téléphoner là, tu étais à l'Assemblée, oui. Est-ce que Frère François était là? Oui. Mais il n'est toujours pas rentré. Où est-il? Et si c'était un endroit bizarre, quand il va rentrer, mais on va lui dire, où étais-tu? Il va mentir. Oui, il met l'âme dans une condition difficile. Mais Dieu lui-même est celui qui nous garde. Si j'ai envie d'aller là où il ne faut pas aller, Dieu me parle à l'intérieur, ne va pas là-bas. Dites amen à ça. Et si j'aime Dieu, je vais l'écouter. 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 6. D'abord, verset 5, il dit ceci. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et par la foi en Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes gardés pour le salut. Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Passez des moments difficiles, des moments éprouvants. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange. La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors écoutez ceci, pardon. Ceux qui l'aiment, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, et parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Quand on vous dit que la foi, c'est le sens de l'âme, l'âme qui a la foi, sa récompense, c'est le salut. Elle est sauvée. Dites amen à ça. C'est la récompense de la foi. Donc, ça n'a rien de faux lorsqu'on vous dit que la foi, le sens de la foi, c'est le sens de l'âme, c'est la foi ou le doute. Le doute, l'incrédulité. C'est la foi ou l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le péché. Et l'âme incrédule, c'est celle qui mourra. Dieu a préparé donc des choses, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 2, préparé des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues. Mais ce sont des choses merveilleuses pour ceux qui aiment Dieu, si vous l'aimez. Quel autre avantage vous avez encore si vous aimez Dieu? Cet avantage que nous connaissons très bien, nous le citons souvent, mais pour cela, il faut aimer Dieu. Dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose, bonne ou mauvaise, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez avantage à l'aimer. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu fait ça. Quelque chose de mauvais vous arrive, Dieu fera concourir cela pour votre bien. Quoique pour l'instant, comme dit Pierre, vous soyez un peu attristé à cause de l'épreuve par laquelle vous passez. Mais cela, Pierre dit, cela doit faire votre joie. Dieu fait concourir donc toute chose pour votre bien. Quand le vent vous bouge, il le fait pour votre bien. Quand l'épreuve arrive, elle arrive pour votre bien. Ça va? Elle fortifie votre foi. Maintenant, ceux qui aiment Dieu, ceux qui l'aiment, sont appelés à régner avec lui. Ils seront couronnés. Maintenant, être couronné et régner avec lui, Dieu dit, on ne peut pas régner sans avoir souffert. Cela, si vous lisez dans Hébreux 5, vous voyez comment le Seigneur a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous régnez sans avoir souffert, ce n'est pas bon. Si on vous donne le trône comme cela, pour le plaisir de vous le donner, vous ne serez jamais un bon roi. Un bon roi, c'est celui qui connaît les problèmes du peuple. Un bon roi est au milieu de son peuple. En tout cas, un bon conducteur, un bon président, un bon roi, je ne sais pas, un bon empereur, il doit être au milieu de son peuple. Un bon chef d'armée, il est au milieu de son armée. Et le roi, ici en Belgique, il est le chef de l'armée. Lorsqu'il y a une guerre, il ne va pas fuir la guerre, aller aux États-Unis, attendant que la guerre finisse. Il va rester au milieu de son armée. Et ça donne du courage aux soldats. Ça donne du courage aux militaires. Christ est au milieu de nous dans cette bataille. C'est pourquoi cela nous donne du courage. Où il nous dit, ne crains pas, je suis là. Tu n'es pas seul. Et ça nous rassure. Le président ukrainien, quand les Russes ont commencé cette invasion, les États-Unis lui ont proposé l'exil. Lui ont dit, écoute, tu peux venir ici. Il a refusé. Il est resté là-bas. Et parce qu'il est resté là-bas, les Ukrainiens se battent contre plus forts qu'eux, contre plus nombreux qu'eux, mais ils ne lâchent pas parce que lui, il est toujours au milieu d'eux. Et quand il voyage, il ne fait jamais 48 heures à l'étranger. Hein. Il part, il fait ce qu'il devait faire, hop, il rentre. Ça, c'est bien, il est toujours au milieu d'eux. C'est ça un bon chef. Sinon, les militaires, ils vont fuir. Ils vont pas se battre. Amen. Pas pour rien que la plupart des premiers ministres israéliens, ils ont tous été dans l'armée. Ils ont tous combattu. Ils ont souffert la guerre. Hein, qui ont perdu l'œil en leur temps. Ils se battent. Et ainsi, ils montrent qu'ils aiment leur roi. Et ils aiment leur pays. Et ceux qui aiment Dieu, ils sont dans une bataille. Et j'ai reçu une question la semaine. Bonne question. C'était Paul. Comment est-ce que Paul a pu vivre des situations aussi difficiles? Il a vécu des situations très difficiles. C'était, je crois, la question se portait sur 1 Thessalonicien, si j'ai une bonne mémoire, 1 Thessalonicien 2, 18. Oui. Oui, aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Ah, frère, même Paul, Satan, là, oui, Satan devait l'empêcher parce que tout simplement, Paul était appelé à aller éclairer les nations. Et ça, Satan ne voulait pas entendre parler de ça. C'est pourquoi il voulait l'empêcher. Il voulait l'empêcher d'aller chez les Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, ce sont des élus, hein, 1 Thessaloniciens 1, 4. Ce sont des élus. Et Paul a passé des moments difficiles, mais quand il énumère tous les moments difficiles qu'il a passés, il dit, le Seigneur m'a délivré dans toutes ces situations-là. Amen. C'est pourquoi il aimait son Dieu. Et ceux qui l'aiment, Dieu va les couronner. Jacques, ils vont régner avec lui. Jacques, chapitre 1er. Verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment, avec la patience donc, patiemment la tentation, sans vous énerver. Dites amen à ça. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à qui ? À ceux qui l'aiment. Amen. Vous êtes appelés à régner. Celui qui vaincra. Dites amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Si vous l'aimez, vous êtes dans le bon. De bonnes choses vous sont adressées. Prions Dieu. Prions le Seigneur. Que chacun prie. Qui s'adresse à celui qui l'aime. Celui que vous aimez, adressez-vous à lui. Si c'était quelqu'un ici sur la terre que vous aimiez beaucoup, si le téléphone sonne, vous aurez, même si vous n'aviez pas préparé de quoi lui dire, vous aurez quand même des choses à lui dire. Que vous l'aimez. Alors, dites à Dieu ce qui vous tient à cœur. C'est celui que vous aimez. Père Céleste, c'est vrai. À cause de mon amour pour toi, lorsque je sors des sentiers battus, je regrette profondément. Je regrette parce que je t'aime. Je regrette de t'avoir fait du mal. Je regrette de t'avoir déçu. Je regrette de t'avoir trompé dans mon cœur, aimant parfois les plaisirs plus que Dieu, aimant parfois les choses terrestres plus que toi. Aussi, te demande pardon de t'attrister ainsi. Comme au temps de Noé, c'est un temps comme le temps de Noé, le temps que nous vivons aujourd'hui, où Dieu a regardé l'homme et s'est dit, l'esprit de l'homme est constamment tourné vers le mal. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Parce que tu veux être aimé par nous, ainsi que tu l'as dit par Moïse. Ce que tu attends de nous, c'est même le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme. Pardonne mes relâchements, Seigneur. Aide-moi à te faire réjouir toujours de par mes témoignages, par mes actes, par ma vie. Comme dit le cantique, que ma vie soit une fleur pour toi. Merci, Père, de nous avoir rassemblés ce soir. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous t'aimons. Celui qui t'aime, aime ta parole. Il aime tes commandements. Et nous sommes heureux de lire dans ta parole. En retour de cet amour que nous avons pour toi, tu nous as réservé bien des choses. Tu nous les as préparées. Ces choses sont à nous tout à fait gracieusement. Merci pour cela, Seigneur. Nous voulons les serrer entre notre cœur et marcher d'une manière qui te plaise. Te prions pour l'Assemblée, pour tous les bien-aimés avec lesquels nous nous assemblons. Ceux qui n'ont pas pu venir, te remercions pour la guérison de ceux qui t'aiment, parce que tu as mis cette guérison, tu as mis cela en réserve pour eux. Tu bénisses chacun. Guérisse tes enfants. Merci Seigneur de cette soirée. Et si tu tardes à venir, nous te remettons la journée de dimanche où nous nous rassemblerons. S'il y a d'autres rassemblements demain où l'on invoque ton saint nom, oh, que ce soit ici ou ailleurs, te prions d'être parmi eux également. Chacun puisse bénéficier de ta garde, chacun puisse bénéficier de ta présence, de ton secours. Maintenant que nous avons terminé, te demandons bien vouloir nous raccompagner alors que nous allons rentrer. Te demandons d'être avec nous, si tu tardes à venir, nous ramener en cet endroit. Ceux qui devront travailler, ils puissent aller travailler avec toi. Que nous soyons tous de cœur ensemble, en accord. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.